se décrit parfaitement libre et prédestiné à vivre éternellement. Cela veut dire que leurs actions, leurs pensées et leurs désirs n'étaient soumis à aucune tension, l'angoisse de l'erreur, la peur du faux pas leur était inconnue. Adam et Ève étaient des êtres immortels. Ils étaient aussi clairs et purs que peut l'être le manteau neigeux immaculé au petit matin. Leur autonomie était totale. Ils n'avaient pas besoin de loi pour se gérer. Et la seule interdiction formelle que Dieu avait établie était celle de la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et quel était le problème? Est-ce que c'était mal de désobéir? Ou est-ce que c'était dangereux pour eux de désobéir? D'abord, il faut répondre à la question, pourquoi Dieu a-t-il planté un arbre, cet arbre particulièrement, au milieu du jardin, tout en interdisant l'accès? Une chose que l'on sait, c'est que le mal était existant à la création de la terre et qu'il était possible de le connaître. La présence du serpent qui tente Ève atteste de cette réalité. On sait également qu'il était impossible pour le mal de se développer par lui-même. Sa puissance était circonscrite, elle était réduite à celle du fruit de l'arbre de la connaissance. Donc même si le mal était présent, il n'y avait pas chez Adam et Ève de connaissance intime du mal. La nature et les animaux étaient préservés du mal. Et à moins que quelqu'un ne vienne le décrocher de l'arbre pour le délier, il lui était impossible de nuire aux hommes. Le mal était donc là, planté au milieu du jardin sous une forme inerte et avec l'impossibilité de s'exprimer par lui-même. Tous savaient où était le mal et tous savaient qu'en l'état, il n'y avait rien à craindre. Cet arbre était là comme témoignage à la souveraineté de Dieu. Il rappelait à tous que c'est Dieu seul qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Il établit que c'est cela qui permet de faire une différence claire entre le Créateur et sa création. Cet arbre était aussi là pour donner à l'homme la possibilité d'exprimer son libre arbitre. Il pouvait ainsi choisir tous les jours ce que serait son lendemain. S'il veut conserver son attachement à Dieu, ou s'il choisit de se défaire de son Créateur pour vivre sa propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? En choisissant de consommer le fruit défendu, Adam et Ève ont manifesté leur volonté d'indépendance et de séparation de la source de vie. Ce geste était loin d'être un simple acte de désobéissance et il a marqué le commencement d'une existence autonome où l'homme se fait lui-même juge du bien et du mal en lieu et place de Dieu. La transgression d'Adam a non seulement ouvert la porte à la puissance de Satan, mais a également touché à l'essence de l'humanité. Dieu avait averti, si vous en mangez, vous mourrez. Est-elle une tache d'encre sur un buvard? Le péché s'est répandu, s'est propagé dans le tissu de l'existence humaine, sans que personne ne puisse rien faire pour l'arrêter. Le virus du péché, tel une pandémie, s'est propagé partout, infectant l'atmosphère de la création, de sorte que personne ne pouvait y échapper. La désobéissance d'Adam a modifié la nature même de l'humanité, inscrivant le péché dans l'ADN spirituel de l'humanité et prédestinant, après Adam, tous les hommes à une inévitable mort physique et spirituelle. Dans ce contexte, même Dieu ne transgresse pas les lois qu'il a établies. Certains diraient, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté le processus? Parce que Dieu, lorsqu'il établit des lois, il ne les transgressera pas lui-même. L'avertissement donné à Adam et Ève était clair. Rompre l'équilibre divin aurait des conséquences irréversibles. Et c'est précisément ce qui s'est produit, plongeant chaque être humain dans la perte et la mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 5, au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Est-ce que c'était mal de désobéir, ou est-ce que c'était dangereux pour eux de désobéir? Bien évidemment, c'était les deux. C'était mal et c'était dangereux. C'est mal parce que moralement, Adam a fait le choix de contester la souveraineté de Dieu. Et c'est dangereux parce qu'à cause de cela, l'harmonie originelle entre l'homme et Dieu a été rompue. Et au lieu de la vie, c'est la mort et la souffrance qui font aujourd'hui partie de l'expérience humaine. D'où la nécessité de la rédemption. Cette tragédie des débuts de l'humanité a ouvert la porte au péché. Le mal est désormais libre de s'exprimer en prenant tous les visages qu'il souhaite, bon ou mauvais, cruel ou séducteur, radical ou consensuel, dictateur ou démocrate, riche ou pauvre, fort ou faible, bien-né ou mal-né. Et cela m'amène à faire la distinction entre le péché et les péchés. Jean-Baptiste baptisait du baptême de repentance pour la rémission des péchés. Les péchés étaient toutes les fautes conscientes ou pas intentionnelles faites contre les hommes et contre la loi de Dieu. Il est important de savoir, n'est-ce pas, si vous parlez à des gens à propos du péché, que mis à part le christianisme et le judaïsme ancien, la notion de péché n'a pas du tout la même signification selon que l'on s'adresse donc à des juifs modernes, des musulmans, des bouddhistes ou des hindouistes. Et pour les athées, la notion de péché n'existe pas. Dans les religions principales que je viens de citer, les péchés sont généralement définis comme des actes ou des pensées qui vont à l'encontre des enseignements des divinités et des lois morales de la religion. Mais la notion de nature pécheresse n'existe dans aucune autre religion que le christianisme. Elles reconnaissent globalement l'imperfection et les erreurs de l'homme, mais ne proposent pas d'expiation ni de repentance. De façon générale, les hommes sont considérés comme responsables de leurs actes et doivent chercher à modifier leur comportement et contrebalancer leurs mauvaises actions par de bonnes actions et chercher à s'améliorer pour leur propre bien et celui de l'humanité présente et parfois future. La conviction de péché et du besoin de salut est donc un véritable miracle. Et ce miracle va de pair avec la venue du Saint-Esprit. Dans Jean 16, 8, il est dit, « Quand il sera venu, c'est Jésus qui parle, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » À l'époque de Jean-Baptiste, les gens venaient pour confesser leurs péchés et celui-ci les plongeait alors dans l'eau du Jourdain, les baptisait. Mais en même temps, il annonçait la nouvelle d'un autre baptême, beaucoup plus puissant. Et il disait aussi, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit. » Et il annonçait par là un changement fondamental. Bientôt, ce ne seront plus seulement les péchés qui seront pardonnés, mais c'est la source, le corps même du péché qui sera anéanti par la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Romains où il explique comment le sacrifice de l'agneau de Dieu, le sacrifice de Jésus à la croix et sa résurrection stoppent de façon radicale et immédiate l'effet du virus mortel du péché dont nous avons hérité de nos parents dès la naissance. Dans Romains 6, 3, vous lisez « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est esclave, celui qui est mort est libre du péché. » Paul fait un parallèle entre ce que Christ a vécu physiquement et ce que cela a produit spirituellement dans l'humanité et qui nécessite de la foi pour le croire. Jésus est mort sur la croix, comme mouraient les criminels à l'époque. Mais dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste, parlant de Jésus qui s'avançait vers lui, disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La mort de Jésus est donc aussi un sacrifice à l'image des sacrifices d'animaux que le peuple d'Israël devait accomplir tous les ans pour la purification de leurs péchés. Jésus était l'agneau du sacrifice, sans tache, innocent de tout péché, contrairement à nous. Alors, Jésus a dit, « Je vais mourir à la place de ceux qui sont esclaves du péché. » Il a dit, « Je vais mourir pour Jeannot, pour Céline, pour Timothée, pour Daniel, pour Christian, pour tous ceux que je ne cite pas. Je vais mourir pour eux. Et je ne vais pas le faire par procuration, mais par identification. Je vais les emmener avec moi dans la mort qu'ils méritent. mais que moi, je ne mérite pas. Et comme ça, ils seront identifiés à moi. Et ce sera Jésus Daniel. Ce sera Jésus Jeannot. Jésus Céline. Jésus Christian. Jésus Jean-Pierre. Et comme la mort n'a pas pu retenir Jésus, elle ne peut pas non plus nous retenir. Et c'est pourquoi, comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, moi aussi, je ressuscite avec lui pour l'éternité. C'est cette identification avec Jésus qui fait que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et comme l'a écrit mon fils Timothée dans une de ses nouvelles intitulée « Le dernier adversaire », en parlant de la mort, il dit, je le cite, « Pour la première fois dans l'histoire, un humain, Jésus, ne lui était pas acquis. Pour la première fois, ce pouvoir absolu qu'elle avait sur tous les êtres vivants était bafoué. Alors, comme une évidence, elle comprit qu'une nouvelle ère arrivait. Une ère où son règne prendra fin. Et elle connut ce qu'elle a fait vivre à tous les êtres vivants depuis la malédiction d'Éden. Pour la première fois, mort connut la peur. Bien-aimés, désormais, nous ne sommes plus soumis à la tyrannie du péché. Nous ne sommes plus à la recherche de la réparation de nos fautes, cherchant à améliorer ce que nous sommes. Nous ne cherchons plus Dieu à tel ou tel endroit, dans telle spiritualité ou dans tel lieu, parce que nous sommes en vie. Nous marchons en nouveauté de vie, comme une même plante avec Jésus. N'est-ce pas, c'est une métaphore puissante qui exprime l'idée que nous ne sommes pas seulement associés à Christ dans un sens spirituel, mais aussi que nous vivons désormais en symbiose, en accord complet avec lui, comme enracinés dans la même terre et croissant étroitement liés avec, à lui, partageant avec lui la mort au péché et la vie nouvelle dans la résurrection. La nouveauté de vie. L'apôtre Pierre aussi avait compris les mêmes choses au sujet de la mort, au péché et de la vie en Christ. Dans sa première épître, il dit, parlant de Jésus, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Le sacrifice de Jésus a accompli le salut pour l'ensemble de l'humanité. Cependant, toute l'humanité ne sera pas sauvée. Pourquoi ? On l'a vu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais quelle est la volonté de l'homme ? Nombreux sont ceux qui s'émeuvent de ce que certains seront sauvés, mais pas d'autres. Pour ceux qui ont une certaine conscience de la divinité, ils considèrent que cela fait partie du devoir de Dieu que de faire en sorte que tout le monde soit sauvé. Mais si on voit les choses comme cela, c'est qu'on considère la relation avec Dieu sous la forme d'un droit de l'homme. Or, cette façon de considérer Dieu envisage que le royaume de Dieu est au service de l'homme et que la relation à Dieu est comme une démocratie dans laquelle les choses se développent et évoluent à force de négociation. Si les choses étaient ainsi, on aurait beaucoup à dire sur le droit de Dieu. Qui se préoccupe du droit de Dieu. Qui est celui qui considère Dieu avec, comme le disait Jeannot ce matin, la révérence et l'amour qu'il mérite? Quels sont ceux qui l'adorent avec un cœur entier, sincère? Quelle est la place faite à la voix de Dieu sur la terre? Le Logos, le Verbe de Dieu, s'est manifesté en Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre et se prolonge jusqu'à aujourd'hui par l'Esprit de Christ qui a été envoyé après la résurrection. On parle du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes et à bénéficier d'égalité de traitement avec les hommes. Mais qui est-ce qui se préoccupe du droit de Dieu, le Créateur, à distinguer l'homme de la femme et les humains des animaux tels qu'il les avait créés? Qui est-ce qui respecte l'ordre de la création voulu par Dieu? Qui se préoccupe du droit de Dieu lorsqu'on vient s'immiscer dans le cycle de la vie? Lorsqu'on explose des milliers d'hommes et de femmes à coups de bombes, on se moque du droit de Dieu. Lorsqu'on taille en pièces à coups de bistouri des corps en cours de formation dans le ventre de leur mère, on se moque du droit de Dieu. Les hommes se moquent du droit de Dieu et les droits de l'homme ont été créés en contrepoint du droit de Dieu. Parce que l'homme cherche, aidé en cela par Satan, à se débarrasser de la pensée même de Dieu. Et une des stratégies de Satan, c'est de produire le chaos dans nos vies et dans le monde, et ensuite de pointer Dieu du doigt en disant « Voici, que fait Dieu ?» S'il était Dieu, il empêcherait la souffrance, il empêcherait les maladies, les cataclysmes. Mais il ne le fait pas, donc il n'y a pas de Dieu. Dieu nous a créés libres. Et cette liberté peut très bien être utilisée pour ignorer le droit de Dieu, voire même le combattre. Dieu ne conteste à personne le droit de profiter de sa vie comme il l'entend, de s'investir et d'en tirer les bénéfices pour lui-même. Et ce ne sont pas nos actions qui déterminent devant Dieu si nous sommes de bonnes ou de mauvaises personnes. C'est notre choix d'accepter ou non la souveraineté de notre Créateur sur notre vie. Et c'est ce choix-là qui détermine notre position vis-à-vis de Dieu. Pour tous ceux qui reconnaissent profondément leur besoin de Dieu dans leur vie, Dieu va leur faire un cadeau, sans aucune condition. Il va leur faire le don de la foi. Il va les équiper de la confiance qui incite à confier sa vie à Jésus-Christ pour être sauvé. Dans Éphésiens 2, au verset 8, vous lisez « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Par nature, je l'ai déjà dit, les hommes sont ennemis de Dieu. L'apôtre Paul fait ce constat dans l'Épître aux Romains, où il dit que parmi les hommes, il ne se trouve aucun juste. Pas même un seul, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu n'a donné à l'homme qu'une seule vie. Et chaque vie possède son propre ADN, qui n'est ni reproductible, ni transmissible. Et c'est cette vie sur la terre, propriété et droit de Dieu, qui sera jugé après la mort. Bien-aimés, voilà pourquoi l'humanité ne sera pas sauvée dans sa totalité. Nous sommes nés dans le péché Et naturellement, nous agissons selon la nature qui nous habite et qui fait de nous des militants viscéralement anti-Dieu. Mais que dire des gens de bien? Ceux qui s'efforcent jour après jour à être justes, à œuvrer pour le bien. Et que dire de ceux qui vivent de profondes injustices, qui sont mal nés? Quelle est donc leur responsabilité? Ce sont sans doute les personnes les plus difficiles à convaincre. Mais Dieu nous demande de reconnaître son droit. Et son droit, c'est que sa création, qui s'est détournée de lui un jour, reconnaisse sa défaillance et lui revienne telle que lui désire qu'elle soit. La parole de Dieu ne laisse pas la place au doute. Les hommes ont beau œuvrer pour la paix et la justice, ils n'établissent pas ainsi le droit de Dieu. Dans Ésaïe 64, verset 6, nous lisons « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Si l'humanité entière était sauvée, il n'y aurait pas besoin de jugement. Dans Hébreux 9, 27, vous lisez qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et vous et moi serons jugés, sauf si un autre est jugé à notre place. C'est parce que le danger de la mort éternelle est réel que Dieu a pourvu en Jésus-Christ le sacrifice sanglant, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui permet d'effacer définitivement le péché et d'échapper au jugement de Dieu. Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Jésus-Christ, le Verbe et le Logos incarné. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu des cieux, qui s'est suscité un peuple. Et le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, la communauté de Dieu, ce sont ceux qui lui reconnaissent son droit, ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ de Nazareth le seul nom, la seule nature parfaite par qui les hommes puissent être sauvés. Dans Actes 4, verset 12, nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous pouvons lever des mains pures vers Dieu? Est-ce que nous sommes profondément enracinés avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même? Et est-ce que nous partageons sa vie et sa sainteté? Je vous laisse avec ces questions. On peut peut-être simplement courber nos têtes et parler au Seigneur si ce que vous avez entendu vous a inspiré. Vous pouvez prier aussi à haute voix si vous le voulez.
Merci Père éternel pour ton Fils que tu as donné, cet agneau sans défaut, sans tache, qui est mort sur la croix ressuscité. Seigneur, la mort ne l'a pas vaincu car il était parfait et la mort ne l'a pas retenu. Et grâce à sa résurrection aujourd'hui, nous pouvons être sauvés. Merci pour ce don, merci pour cette grâce, merci pour ce cadeau que tu nous offres, Seigneur, de nous permettre de pouvoir retrouver cette relation avec toi, grâce à la mort de ton Fils. Que ton nom soit béni.
Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin encore remettre nos vies entre tes mains afin que que nos fondations puissent être assurées en toi. Mais aussi, Seigneur, nous prions pour tous ceux que nous aimons, tous ceux que tu nous as donnés, qui sont dans nos familles, autour de nous, nos amis, ceux que nous connaissons. Seigneur, parce que le danger est réel. Et nous prions, Dieu, que tu ne reviennes pas tout de suite, Seigneur, parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes, Seigneur, qui doivent être sauvés encore. Seigneur, merci pour cette patience. Merci, Seigneur, parce que il y a encore le temps. Seigneur, nous prions pour tous ceux que nous aimons, que tu les amènes à toi, que tu les amènes à... Seigneur, à te découvrir, à te connaître. Qu'ils puissent, oh Dieu, accepter la souveraineté de Dieu dans leur vie. Seigneur, nous pensons à nos enfants, nous pensons aussi aux gens dans le village. Seigneur, agis. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse agir encore avec puissance. Que ton nom soit béni.